Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
La République démocratique du Congo, lieu propice pour tout investissement, au regard de toutes les réformes mises en œuvre. C'est l'assurance exprimée par le DG de l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie en API à l'ouverture à Bruxelles du Rebranding Africa Forum hier jeudi. Et puis le cardinal Pridolé Mbongo dit avoir enregistré des observations au terme de sa visite pastorale dans le Grand Bandundu au regard de la situation sécuritaire de Kwamutu. Il a partagé hier avec le Premier ministre au cours d'une audience lui accordée. Enfin, le mal de dos, mal du siècle aux multiples conséquences, est devenu un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Rémi Kawele, médecin physique et spécialiste en réadaptation. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Mais tout d'abord, cette information... En provenance de Londres, le président de la République est arrivé hier jeudi à Accra, au Ghana. Selon le compte Twitter de la présidence, Félix-Antoine Tshisekedi entame une visite de travail et d'amitié de 24 heures au Ghana. Durant cette visite officielle, les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Nana Akufo-Addo, vont parler des sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le changement climatique, pour affiner une stratégie africaine en vue de la COP27 en novembre prochain en Égypte, précise la même source. La République démocratique du Congo est lieu où il faut venir investir au regard de toutes les réformes mises en œuvre. Ce sont les propos d'Anthony Kinzo, DG de l'ANAPI, lors de l'ouverture ce jeudi 20 octobre du Rebranding Africa Forum à Bruxelles. Ce forum économique organisé depuis 2014 va, sur deux jours, réunir plusieurs orateurs de haut vol, notamment des décideurs politiques africains et européens, des opérateurs économiques, des patrons d'institutions bancaires internationales. Le patron de l'ANAPI dit que le rebranding économique du Congo est déjà en marche si l'on tient compte des signaux positifs donnés par les institutions financières internationales. Anthony Kinzo est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana, l'envoyé spécial de Radio Okapi à ce forum.
Si vous êtes au fait de l'actualité, vous allez vous rendre compte de comment les institutions financières internationales, je parle des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, BAD, ont donné quand même une certaine meilleure ouverture à la RDC. Je prends le cas du FMI. Il y a 2-3 ans, c'était quasi impossible de voir que le FMI revienne au pays, mais aujourd'hui, non seulement le FMI revient, mais ensuite avec un montant qui est de plus en plus accru sur les facilités élargies de crédit, nous voyons comment le FMI fait confiance. Et d'ailleurs, dans quelques publications que le FMI a fait d'ailleurs, ils disent que l'économie de la RDC est résiliente et que donc on devrait revenir sur la RDC, on devrait y investir. Vous avez suivi les grandes communications et dernièrement dans les assemblées annuelles, vous avez vu comment on est en train de prendre des très bonnes positions, comment on est en train de se retrouver dans des très bonnes conditions pour bénéficier de cet accompagnement et aussi de fonds venant de cette institution de Bretton Woods. Banque mondiale, l'augmentation de l'enveloppe. Aujourd'hui, il y a des projets comme PADEM-PME, projets Transform, qui de plus en plus sont en train de connaître un accroissement dans leur enveloppe. Ça veut dire qu'il y a quand même une image qui est en train de se mettre en place.
Conflit Teke-Yaka, le cardinal Fridolin Mbongo a remis ce jeudi au Premier ministre la synthèse de son rapport sur la situation sécuritaire de Kwamut après sa mission pastorale effectuée dans le Grand Bandundu. C'était au cours d'une audience lui accordée à la primature ici à Kinshasa. Tout en réservant jusqu'ici la primeur du contenu du dit rapport au chef du gouvernement, le cardinal Fridolin Mbongo dit avoir enregistré des observations qu'il a jugé bon de partager avec Jean-Michel Samalukonde pour des solutions appropriées. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grace Amouzati.
Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans le territoire de Kwamut. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa, et Kwamut, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale, la première fois le long du fleuve, jusqu'à Kwamut Cité. J'ai continué ma visite jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17, Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer mon frère et soeur, ils sont dans cette partie, et J'ai eu des observations qui me paraissaient importantes et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus.
Alors sur le terrain au Kwilu, au moins 500 ménages des déplacés de Kwamout se trouvant dans la ville de Bandundu ont bénéficié hier jeudi de l'assistance du gouvernement central. Il s'agit des vivres et non-vivres ainsi que d'une somme d'argent remis à chacun de ces ménages. C'est le ministre national des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, qui a remis symboliquement ses dons aux déplacés en présence des quatre autres membres du gouvernement central en séjour à Bandundu sur ordre du président de la République ainsi que du gouvernement provincial du Kwilu. Irène Boma pour les détails.
C'est sous une pluie battante ce jeudi que la délégation gouvernementale a visité les entrepôts du marché central de Malebo à Bandundu où sont logés les déplacés de Kwamout. Elle leur a apporté l'assistance humanitaire constituée notamment des sacs de sucre, des manioc, des riz, des boîtes de conserve, des bidons d'huile, des mousses, des pannes et autres, dont du gouvernement central. Outre ces vivres et non-vivres, la délégation a remis à chaque ménage de déplacés une enveloppe de $100 américains pour leur permettre de rejoindre leur village d'origine. Dans leur mémorandum, ces derniers remercient le gouvernement pour l'assistance, mais tiennent à tout prix à quitter Bandundu à cause des mauvaises conditions de vie.
Nous souhaiterons que les autorités puissent intervenir pour que nos conditions de vie soient améliorées. Nous vous demandons à ce que nous soyons libérés et aller dans les milieux que nous pourrions vivre.
Tout en exhortant à ces victimes des atrocités de Kwamout et en reçu l'enveloppe de partir réellement dans leurs milieux, ces membres de l'exécutif les ont aussi invités à dénoncer tous les ennemis de la paix et à reprendre la cohabitation pacifique. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Assistance aux victimes de la pollution de la rivière Kasai et celle des autres catastrophes naturelles dues aux pluies diluviennes survenues dans plusieurs villages du territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu il y a quelques mois. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales a présenté ce jeudi à Kikwit, dans la même province, aux notables et chefs de ces villages, la gamme des interventions du gouvernement pour ces victimes qui, pour la plupart, se sont déjà réinstallées dans leur village qu'ils avaient quitté à la suite de ces catastrophes. Pour Hubert Etika, sur demande des élus de cette province, le gouvernement avait jugé bon d'exécuter les travaux de forage afin de permettre aux habitants de certains de ces villages d'accéder à l'eau potable. On écoute Hubert Etika, directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, au micro des Pierrot et la Mégie.
Vous vous rappellerez jadis qu'il y a eu un problème au niveau des eaux de la rivière Kasai qui ont été polluées à un moment et qui a fait qu'il y a beaucoup de villages le long de cette rivière qui ont été touchés à l'époque. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, l'État ne s'est pas exécuté tout de suite, mais a fini quand même par s'exécuter. Nous avions eu le moyen pour finir faire ce travail-là. Mais la question qu'on s'était posée avec les honorables députés, est-ce qu'il fallait-il qu'on ait à apporter des vivres, non-vivres, médicaments, surtout que les gens sont déjà rentrés dans leur milieu respectif. Voilà pourquoi les honorables députés nous ont conseillé qu'il fallait, à la place peut-être, apporter de l'eau potable qui servira à tout le monde. Et c'est ce que nous avions fait. Le ministre des Actions humanitaires nous a demandé d'avoir aussi les quitus des notables locaux de tous ces villages-là. Dibaya Loubwe, Mangaï, Pio Pio, Bikoko, Mpangu, Panosumbu, Panosité, Makanga, Yolo et Mabenga. Mabenga, c'est une entité du territoire voisin de Bagata. Nous avions fait une réunion avec eux pour savoir si eux aussi étaient d'accord de la proposition qui nous a été faite, de mettre plus de l'eau potable que d'amener des vivres.
Hubert Etika a aussi indiqué que des tôles, planches et clous ont été emmenés pour la reconstruction des écoles, des édifices publics et d'autres maisons d'habitation dont les toitures ont été emportées à la suite de ces pluies. Cette rencontre s'est déroulée en présence du maire de Kikwit et de l'administrateur d'Idiofa qui ont tous, au nom de leurs administrés, remercié le gouvernement pour ses interventions. Pendant ces temps, en territoire de Beni, l'armée appelle la population à s'unir avec elle pour les renseignements sur tous les mouvements des ennemis de la paix. C'est ce que préconise le porte-parole de l'armée quelques heures après l'attaque de la localité de Maboya qui a causé des dégâts humains et matériels énormes. Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région, chacun dans son domaine doit aider l'armée avec les renseignements afin de faciliter les opérations de leur traque. Le capitaine Anthony Mualouchek s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Au moment où je vous parle, nous avons déjà arrêté 4 terroristes ADF MTM. Nous avons même arrêté l'un de monsieur qui a dirigé, qui a orienté les terroristes et ses supplétifs dans ces villages pour opérer. Et nous pensons que nous allons les présenter officiellement devant la presse cachent donc devant notre population pour qu'ils subissent vraiment la rigueur de la loi. Quand on parle toujours des renseignements militaires, le renseignement militaire s'obtient grâce aux informations que la population donne. Ce sont les informations de la population que nous transformons en renseignements. Donc c'est pourquoi nous appelons toujours à cette collaboration entre la population, entre les membres de la société civile, les acteurs, les chefs de village. Donc chacun dans son domaine doit aider l'armée avec les informations nécessaires pour mener les opérations. Et c'est pourquoi nous demandons tout le temps que la collaboration, la population doit collaborer avec les services de sécurité pour, n'est-ce pas, se faire l'idée ou bien pour avoir les renseignements sur l'ennemi.
Notons que le bilan de cette énième incursion des ADF fait état de 9 civils tués, l'hôpital catholique de Maboya incendié, plusieurs boutiques et des maisons pillées et incendiées, ainsi qu'une dizaine de personnes portées disparues. Restons en Nord Kivu. La survie des populations de Rutshuru, en particulier celle des déplacés de Bunagana, devient de plus en plus difficile au chef-lieu du territoire et ses environs, à la suite des déplacements massifs des populations de la zone de Jomba et autres localités affectées par ces affrontements. Nombreux champs de culture et toutes les activités agricoles sont abandonnés. Du coup, une carence en produits agricoles suivie d'une hausse des prix des vivres disponibles s'observe sur le marché de Rutshuru, vu la loi de l'offre et de la demande. Les détails avec Bernardine Diambou.
Dans les groupements de Jomba, par exemple, les habitants cultivaient en grande quantité les maïs, les haricots, les sorgots, bananes et j'en passe. Des produits qui approvisionnaient plusieurs coins de ces territoires, selon plusieurs sources à Rutshuru. Mais depuis l'occupation de Bunagana par le rebelle du M23, les habitants n'accèdent plus à leurs champs. Du coup, les prix de plusieurs denrées alimentaires a haussé. Selon nos sources, une cuvette de haricots, communément appelée Murongo, par exemple, qui se vend à 1000 francs congolais revient aujourd'hui à 2000 francs congolais. Et pourtant, c'est la céréale la plus consommée dans la région. Un notable de Rutshuru, M. Mboussa Mukanda, décrit la situation.
Les maïs, c'est aussi même chose. Les choux qui se produisaient à Kibumba, même chose. Les sorgho, même chose. Et même les maniocs, puisque dans la zone où occupe les M23, dans les groupements Jomba, Kisigari, Bweza, ici, les sorgho, maïs et haricots étaient récoltés en abondance. Mais aujourd'hui, les champs ont été abandonnés par les déplacés de guerre. Et c'est même les déplacés de guerre qui vivent dans des familles d'accueil, dans des cas de déplacés, qui produisaient, mais aujourd'hui veulent consommer ça produire.
À noter que selon et même Mboussa Mukanda, le prix du loyer locatif a également haussé dans plusieurs agglomérations de Rutshuru. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, les représentants du secteur public et privé, les ONG, les scientifiques et autres personnalités intervenant dans la protection de l'environnement et le développement durable sont appelés à contribuer à l'amélioration du document de politique nationale pour l'énergie en République démocratique du Congo. Cet appel leur a été lancé ce jeudi par Madame la gouverneure de province Madeleine Nikomba Sabangu. C'est à l'occasion de l'ouverture de la consultation provinciale dans le cadre du processus d'élaboration de la politique nationale de l'énergie en RDC. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Une cinquantaine de personnalités venues de différentes couches de la population participent à ces assises de deux jours. Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan, en explique les attentes.
Avoir les recommandations, les idées qui aspirent à ce que les provinces soient également au même niveau que les niveaux nationaux dans le cadre de la production de l'énergie, distribution de l'énergie, surtout la protection de l'écosystème. Système au niveau de chacune des provinces.
Ce document enrichir a été produit par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité avec l'appui notamment du PNUD. Il a été présenté en mai dernier à Kinshasa. La gouverneure de province, Madeleine Nikomba, en donne quelques objectifs.
1. Accroître l'offre pour l'indépendance énergétique. 2. Atteindre l'accès universel à l'électricité. 3. Renforcer l'exploration, l'exploitation et la transformation des hydrocarbures. Envie de réduire les déficits énergétiques du pays.
Compte tenu de la qualité des participants, Madame le gouverneur reste convaincue que les échanges seront riches et de nature à intégrer les réalités locales dans la politique nationale du plan énergétique du pays. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À Matadi au Congo central, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPEF en sigle vient de doter 6 écoles primaires du secteur public de bancs pupitres. Cette dotation qui entre dans le cadre de la campagne nationale dénommée « Pas d'école sans banc en RDC » s'est faite en présence de Carole Kiatazabou, ministre provincial de l'éducation du Congo central. Pour Franck Dimbélé, coordonnateur provincial du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, ce geste vise la promotion de l'éducation et le soutien du chef de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Nana Plurichi Mwambu, reportage.
Ces 150 bons pupitres, dont du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPEF, sont au bénéfice des 6 écoles primaires du secteur public de la ville de Matadi. Selon les coordonnateurs du FPEF, cette dotation vise à soutenir et à accompagner la gratuité de l'enseignement instauré par les chefs de l'État en vue de promouvoir l'éducation. Il demande au gouvernement provincial l'activation des fonds additionnels pour étendre ses actions en faveur de l'éducation. Franck Dimbélé.
Même si vous êtes une philanthropie, vous ne pouvez pas fonctionner si vous n'avez pas les moyens. Voilà pourquoi nous soutenons au niveau du gouvernement provincial son accompagnement.
Le ministre provincial de l'éducation qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie invite les chefs d'établissements scolaires qui en ont bénéficié à enseigner aux élèves l'usage rationnel de ces bancs. Carole Kiatazabou.
Nous demandons de faire bon usage de ces bons pupitres et d'apprendre aux élèves, au travers du cours de l'éducation civique et morale, de respecter ces bons pupitres comme bien public.
Notons que cette dotation est une première vague au Congo central depuis le lancement à Kinshasa de la campagne dénommée « Pas d'école sans banc ». Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En international, journée meurtrière jeudi au Tchad lors des manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a eu des dizaines de morts, des civils tués par balles. Le bilan avancé par les uns et les autres diverge. Jeudi en fin de journée, le premier ministre Salé Keb Zabo a évoqué une cinquantaine de morts et 300 blessés. Il a annoncé un couvre-feu dans quatre villes de 18h à 6h du matin jusqu'au retour total de l'ordre ainsi que des poursuites judiciaires. Il fait porter la responsabilité des violences aux organisateurs des manifestations.
L'invité.
Les résultats d'une étude menée à Kinshasa révèlent que le mal de dos, mal du siècle, aux multiples conséquences, est devenu un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Le docteur Rémi Kawele, médecin physique et spécialiste en réadaptation qui a mené cette étude, affirme que 600 patients ont été consultés et soignés pour le mal de dos de janvier à septembre 2022 sur 900 malades reçus. Docteur Rémi Kawele est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient ici avec Pascal Masirika. Suivez.
Docteur Rémi Kawele, bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Vous venez de publier les résultats d'une étude dans laquelle vous affirmez que le mal de dos est devenu aujourd'hui un problème de santé. Public, un mal du siècle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, docteur?
Le mal du siècle, pourquoi? Simplement parce que c'est un mal qui est, c'est un ennui qui est partagé par la population mondiale, quelles que soient les catégories sociales. Sur le plan international, par exemple, le mal du dos fait partie des premières causes d'inaptitude médicale. Il y a plusieurs arrêts du travail liés à ces problèmes du dos, plusieurs milliers de dollars qui s'écoulent pour la gestion de ces problèmes du dos. Voilà pourquoi nous disons de ces problèmes du dos comme un problème du siècle. Ici, chez nous, en RDC, particulièrement à Kinshasa, dans un seul centre où nous avons suivi plus de 900 patients de 2022, donc janvier jusqu'à septembre 2022, des 600 patients qui nous ont consultés, soignés pour le problème spécialement du dos. Voilà, tous ces éléments mis ensemble, nous pensons que nous devons avertir la population pour prendre vraiment précaution de ces problèmes.
Quelles en sont les causes principales, les symptômes et les conséquences qui en découlent?
Mais nous pouvons les regrouper par la sédentarité un peu sous toutes ses formes. Il y a des activités professionnelles qui conditionnent à développer dans l'avenir le mal du dos. Il y a par exemple une mauvaise alimentation liée à la mondialisation, le fat food qui fait grossir rapidement des gens, de mauvaise qualité de l'alimentation qui est aussi à la base de ces différents problèmes du dos. Nous pouvons aussi citer une mauvaise utilisation du dos, mais particulièrement nous pouvons insister sur la literie, ça veut dire les couchages, tout ce qui est lit, oreiller, matelas, y compris le poste du travail. Ces deux éléments sont plus importants dans le développement du mal du dos parce que avec ces deux, nous passons plus de 16 heures du temps couchés soit au travail qui aurait un lien direct avec la survenue de problèmes du dos. Les symptômes majeurs, c'est la douleur. La douleur peut être localisée, spécialement au dos, mais ça peut évoluer avec une douleur irradiante. Ça veut dire qu'il quitte le dos, qu'il passe par le fesse, cuisse, mollet jusqu'à orteil. Ça, c'est une douleur irradiante selon les cas, mais ça peut donner aussi des fourmillements, même le trouble de des sensibilités. Vous pouvez avoir certaines personnes qui vous disent, je ne sens plus mes jambes, je n'arrive plus à bien marcher. Et tout cela, ça peut même évoluer plus tard pour donner ce qu'on appelle paraparésie. Ça veut dire, vous n'avez plus la fonctionnalité des membres inférieurs. Ça peut vous conditionner à une infection, à une incontinence urinaire, par exemple, insensibilité anale. Et ce sont des signes qui montrent que ça, c'est une urgence, comment une urgence médico-chirurgicale. En ce qui concerne les symptômes, voilà un peu quelques symptômes selon les cas qui nous viennent, nous pouvons les orienter comme ça.
Quelles sont les catégories d'âge qui sont concernées là, généralement?
Parce que les mal de dos, nous pouvons le voir sous des formes ou des types. Si ce sont des mal du dos communes, quand on parle de lombalgie commune ou bien les lombalgies mécaniques, à ce moment-là, on peut voir au-delà des 45 ans et plus, lié à l'âge au vieillissement. Mais d'autres mal du dos qu'on appelle les mal du dos symptomatiques, ça veut dire on peut avoir un problème par exemple d'infection qui donne la douleur au dos. À ce moment-là, il n'y a pas d'âge. Si vous êtes en tête d'un problème, par exemple le cancer, peut être un mal du dos symptomatique. Donc le problème est ailleurs, mais la douleur, ça se manifeste au niveau du dos. À ce qui concerne lombalgie mécanique, ça veut dire les mal du dos d'origine mécanique ou commune liée à l'âge, on peut prendre au-delà des 45 ans plus, on peut en développer cela. Mais à ce qui concerne le mal du dos symptomatique, on n'a pas d'âge. Une fois qu'on a une maladie dont l'expression de la douleur donne au niveau du dos, par exemple des infections, le problème du rein par exemple, on peut avoir le mal du dos. À ce qui concerne l'âge, il n'y a pas spécifiquement de l'âge lié à cela. À ce qui concerne les diagnostics, nous conseillons la population à consulter les médecins attitrés, à commencer par les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes, médecins physiques par exemple, les rhumatologues, les neurochirurgiens, l'orthopédie, ce sont des médecins attitrés à faire la différence qui existe entre est-ce un mal du dos commune ou bien un mal du dos symptomatique. Car chaque mal du dos a une orientation de prise en charge, ce que nous recommandons vivement à notre population.
Merci docteur.
Je vous en prie, Pascal.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Alain Goy, coordonnée et supervisée par Alain Irung Mushinj. Merci pour votre particulière attention.